Je ne vous fais pas strictement un cours de philosophie, hein, parce que le principe de ces interventions, ce n'est pas de faire un cours, puisque comme vous verrez, je ferai intervenir dans mon intervention, je ferai appel à des choses venant de la psychologie, venant de la sociologie, venant de la science politique, et même, comme je vous l'ai dit, venant du domaine du sport. Alors, vous m'excuserez pour la présentation PowerPoint, mais c'est le problème de changement de logiciel, et j'ai fait ça sur Open Office, et puis là, c'est sur une version ancienne de Microsoft Office, donc j'ai perdu une partie des polices, donc c'est pour ça que ce sera aussi, bon, si l'un d'entre vous s'en occupait, ce serait sûrement mieux, mais c'est quand même visible. Donc je vous parlerai d'abord de la notion de pouvoir, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de l'autorité sans parler du pouvoir. Ensuite, de l'autorité, la notion de pouvoir étant plus large que la notion d'autorité. Et puis enfin, je vous parlerai de l'autorité dans la situation éducative, mais ça sera juste, je dirais, une illustration et une problématisation plus concrète que le pouvoir. Alors c'est là où je vous dis que c'est assez moche, puisque les polices ont changé. Je vous parle d'abord du pouvoir. Je crois que dans ce genre d'exercice, il faut toujours définir les notions qui sont clés et, encore une fois, dire l'autorité, c'est une manière d'exercer le pouvoir, mais il y a beaucoup de manières d'exercer le pouvoir. Et donc, on est obligé de parler d'abord du pouvoir. Alors, le pouvoir, il est indispensable de commencer par des définitions simples sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. Le pouvoir, c'est une capacité consciente. Donc, je laisse de côté le pouvoir pour un rocher d'écraser une automobile quand il dévale une pente. Hein. Le pouvoir, c'est une capacité consciente d'exercer une influence sur le comportement d'autrui, sur le comportement d'un autre homme. Alors, pourquoi faire? Pourquoi exercer un comportement, une influence sur le comportement d'autrui? Mais c'est pour le faire agir, lui faire quelque chose. Pour le faire agir d'une certaine manière et pas d'une autre. Et puis, ne pas oublier surtout que le pouvoir, ça sert souvent aussi à empêcher d'agir. C'est pour, le fait de bloquer un comportement ou d'empêcher un comportement fait partie des comportements possibles sur lesquels on agit. Un non-comportement peut être considéré comme une forme de comportement. Donc, on exerce le pouvoir pour faire agir les gens, pour les faire agir d'une manière particulière ou pour les empêcher d'agir. Alors comment on fait? Comment ça s'exerce? C'est quelque chose de très mystérieux. Comme vous avez dit, comment est-ce que quand on vous demande quelque chose, quand quelqu'un qui a un pouvoir sur vous vous demande quelque chose, comment se fait-il que vous obéissiez? C'est là le problème de la médiation, les moyens du pouvoir. Alors il y a trois médiations du pouvoir. C'est premièrement le consensus sur l'autorité. Vous verrez, c'est ça qui va nous amener à notre sujet. Il y a le consensus sur l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire, consensus? Consensus, ça veut dire que on est d'accord, on est consentant, qu'on est d'un sentiment commun pour accepter quelque chose. Le consensus sur l'autorité, donc on est d'accord. C'est parce qu'on est d'accord qu'on obéit. Mais il faut faire très attention, c'est qu'on peut être d'accord sur des choses, on peut être d'accord pour des raisons qui sont extrêmement différentes et extrêmement variables. On peut être d'accord avec quelqu'un parce qu'on est d'accord avec lui sur les valeurs qui sont en jeu. Quand vous passez un accord honnête avec quelqu'un et que vous vous exécutez, que vous obéissez aux obligations que ce quelqu'un vous a fixées, par exemple dans un contrat, si vous êtes vraiment d'accord, sur les valeurs, par exemple, si vous dites les paroles doivent être respectées, la parole donnée doit être respectée, vous êtes d'accord sur des valeurs avec lui. Hein, j'ai donné ma parole, il a donné sa parole, nous sommes d'accord sur des valeurs. Vous pouvez être d'accord sur des objectifs, sur des fins, des objectifs. Par exemple, je prends tout de suite un exemple sportif, à l'intérieur d'une équipe, si tout va bien, on est d'accord pour gagner. On n'est pas là seulement pour jouer, on est là pour gagner. On est d'accord sur les fins. Alors, ces fins, ce n'est pas forcément des fins obtenues de n'importe quelle manière. Normalement, quand vous êtes dans un sport, vous êtes d'accord sur tous les membres de l'équipe sont d'accord sur l'objectif de gagner, mais de gagner en respectant les règles, ou en tout cas en faisant semblant de les respecter. Mais de toute manière, vous êtes obligé de jouer les règles du jeu. Vous pouvez être d'accord sur les règles. Vous pouvez dire, bon, je ne suis pas d'accord sur les fins poursuivies, mais je suis d'accord sur la règle. Je prends un exemple. Vous êtes d'accord sur la règle. Déjà, je vais mettre la règle et les procédures ensemble. Vous avez un règlement intérieur, que ce soit dans une entreprise, dans une administration, que ce soit dans un lycée. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur ce qu'on va vous faire faire à travers le règlement intérieur. Vous n'avez pas forcément envie de travailler, hein, mais on va vous faire travailler. J'espère que vous avez envie de travailler quand même, vous êtes d'accord sur ces cas-là. Mais vous êtes d'accord sur le règlement intérieur, tout simplement par le fait que on est obligé d'y souscrire pour faire partie de la communauté de l'établissement. Donc là, vous êtes d'accord sur les règles, vous êtes d'accord sur les procédures. Très souvent, nous sommes d'accord dans nos comportements, simplement parce que ça a été fait correctement, selon les règles, même si l'objectif atteint, finalement, ne nous satisfait pas complètement. On peut être aussi d'accord sur celui qui commande. Ça, c'est une forme de consensus qui est très intéressante. On n'est pas forcément d'accord, mais c'est le chef. On est d'accord que c'est le chef. C'est souvent le cas des capitaines d'équipes de sport. C'est le cas pour certains hommes politiques. On est d'accord sur le fait que c'est eux qui commandent. Peut-être parce qu'ils ont été élus selon les règles. Hein. On est d'accord sur les règles. Mais on est d'accord aussi parce que c'est eux. On est d'accord sur celui qui commande. C'est lui qui est chef. C'est lui qui est en position d'être chef. Ça, c'est donc toute la rubrique du consensus. Et encore une fois, on peut être d'accord pour des raisons extrêmement différentes et quelquefois, on peut considérer que ces raisons sont pas forcément satisfaisantes ou valables. Mais on peut être d'accord, encore une fois, sur au nom de choses extrêmes, de valeurs, de fins, de règles, de procédures ou de position personnelle concernant qui commande. Deuxième médiation du pouvoir, alors là, c'est pas du tout l'accord, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'on obéit, à quelqu'un qui a le pouvoir, parce qu'on en attend un avantage ou qu'on en craint un désavantage. Mais on n'a pas forcément à ce moment-là à être d'accord. Hein. Si vous voulez toucher votre salaire, vous allez obéir à votre superviseur ou à votre chef, tout simplement parce que vous voulez toucher votre salaire, vous ne voulez pas être licencié, ou vous voulez avoir la prime, vous ne voulez pas avoir le désavantage d'avoir juste votre salaire. Donc là, c'est l'intérêt. Et nous obéissons très souvent par intérêt. C'est-à-dire, si vous pouvez... Hein, moi, je suis quelqu'un qui ne fraude jamais dans les transports en commun. Ça doit être d'enfance que ça m'est venu. Mes parents m'ont éduqué de manière particulièrement sévère ou responsable. Mais oui, je suis d'accord sur le fait de payer par principe. C'est-à-dire que si personne ne payait son ticket, si tout le monde trouvait, il n'y aurait plus de transport en commun. Là, c'est le consensus. Et puis, je peux être d'accord, vous pouvez payer votre billet tout simplement parce que vous avez peur d'avoir une amende. Là, ce sera par intérêt que vous payerez votre ticket. Alors, vous direz, le désavantage est plus gênant que l'avantage de voyager sans ticket. Et puis, troisième manière, troisième médiation du pouvoir, c'est la crainte de la force ou l'emploi effectif de la force. C'est-à-dire, on vous force physiquement, hein, ou on vous force en vous faisant peur, c'est la menace. Là, c'est la troisième médiation du pouvoir. Elle est souvent présente aussi, hein, je veux dire, si vous ne volez pas, c'est que vous avez peur de vous faire arrêter et puis de vous faire ensuite incarcérer, par exemple. C'est-à-dire d'être restreint physiquement dans votre liberté de vivre et de vous déplacer. Donc, trois médiations du pouvoir. Le consensus, qui peut être de nature très différente, l'intérêt et puis la crainte. Alors, ce que j'ajoute tout de suite, c'est que c'est une nuance intermédiaire, mais qui est particulièrement importante pour la situation contemporaine. C'est que nous sommes aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas hier. Hier, je dirais, il y a un siècle, au 19e siècle, au 17e siècle, etc. Ce n'est pas forcément le cas hier. Mais nous sommes aujourd'hui dans des situations qui sont presque toujours des situations très complexes. C'est-à-dire que le pouvoir s'exerce toujours dans des situations complexes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent collaborer en même temps pour que la situation fonctionne correctement, pour que les choses fonctionnent correctement. Hein, pensez à une classe. Une classe, c'est beaucoup d'acteurs réunis et dont on doit organiser les actions. Le professeur organise les actions, mais c'est vrai aussi quand on organise les actions, on est venu à cette conférence. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent collaborer entre eux. Ces acteurs, ils ont beaucoup d'interactions entre eux. C'est-à-dire, vous connaissez beaucoup d'autres lycéens, vous avez des relations à travers les SMS, le téléphone portable, les chats, etc. Vous avez beaucoup d'interactions entre vous. Et, bon, là, vous êtes le public est relativement homogène, mais vous pouvez avoir beaucoup de valeurs différentes. Des valeurs toutes sortes, ça peut être des valeurs religieuses, ça peut être des valeurs politiques, ça peut être des valeurs morales qui sont extrêmement différentes. Bon, encore une fois, vous paraissez là un public assez homogène, mais lorsque je suis intervenu il y a quelques années au lycée Henri Bergson à Paris, dans le 20e arrondissement, le proviseur m'avait dit « Faites attention, vous m'avez demandé de parler d'identité et communautarisme, hein, je veux dire. » Il m'a dit « Faites attention parce que j'ai des élèves de 31 nationalités différentes d'origine. 31 nationalités différentes. Alors ne parlez surtout pas de religion. » Il m'avait dit, parce que si vous parlez de religion, il va y avoir la guerre de religion dans le quart d'heure qui va suivre. En revanche, parler d'identité, de communauté, vous pouvez très bien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'avait demandé, mais faites bien attention. Donc vous voyez ce que c'est qu'un groupe où vous avez des groupes de ce lycée, c'est un lycée où il y a des élèves de 31 origines géographiques différentes. Et donc du coup, quand les situations sont complexes, il y a beaucoup de conséquences des actions qui sont à la fois attendues et qui sont à la fois inattendues. On prend une décision et puis ça va avoir des conséquences parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés, qu'entre eux ils ont des communications, qu'ils partagent des points de vue qui sont soit les mêmes, soit différents. Et donc on peut pas, on est obligé d'accepter beaucoup de conséquences, mais qu'on ne peut pas tout prévoir d'entrée de jeu. Et c'est le sens de ce que j'ai mis en rouge, c'est dans ces circonstances-là qu'il faut que le pouvoir s'exerce. Donc c'est très compliqué que le pouvoir s'exerce dans ces situations qui sont elles-mêmes des situations compliquées. Et je dirais, en plus, dans ces situations, on a besoin de discipline et de coordination pour que les gens agissent ensemble. Pour que les gens agissent ensemble. Pensez à une chose toute simple, parce que vous n'êtes pas loin, et puis un certain nombre d'entre vous doivent venir la pratiquer. Pensez à ce que c'est qu'une gare, le vendredi après-midi, quand les gens rentrent chez eux, repartent, etc. Pensez à la coordination incroyable que ça demande. C'est une coordination qui est informelle, mais il y a certainement de la discipline et de l'autorité là-dessous. Il y a la discipline, c'est pas la discipline d'un chef d'établissement, à ce moment-là, c'est la discipline qui est des signaux, des annonces, des trains, des départs de train, c'est la discipline des passages, c'est la discipline des escalators, c'est, vous avez toute une sorte d'organisation de l'action collective, et c'est quelque chose de joliment compliqué, et néanmoins ça marche assez bien. Hein. Je prends même pas l'exemple d'endroits où passent des centaines de milliers de personnes à la fois, comme la gare Saint-Lazare ou la gare de Lyon à Paris. Donc, nous sommes dans des sociétés qui sont extrêmement complexes, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'interactions entre eux, beaucoup de valeurs différentes, et on est obligé d'organiser ça. Ne serait-ce que pour que ça marche. Je veux dire, en fait, si vous voulez pouvoir rentrer chez vous en fin de semaine pour aller passer le week-end dans votre famille, vous êtes obligé d'avoir une autorité, un fonctionnement du pouvoir, une discipline, appelez-le comme vous voulez. Ensuite, on analysera mieux, mais il faut qu'il y ait une grande discipline des acteurs. Je vous donne un exemple. En creux, c'est souvent intéressant quand on réfléchit de chercher par des contre-exemples. Pensez à la manière, bon, je ne sais pas si le sport vous intéresse beaucoup, mais pensez à la manière dont, pour les grandes compétitions, les équipes, on s'efforce de les isoler du monde extérieur. On les emmène dans des hôtels de luxe un peu à l'écart, on les coupe de la presse. On leur demande de ne pas utiliser trop leur téléphone portable, on leur demande de ne pas regarder la télévision, etc. Tout simplement, c'est exactement ça, c'est pour que, je dirais, la situation soit simplifiée de manière à ce que l'organisation du pouvoir se fasse plus facilement. C'est-à-dire, on veut éviter que les gens interagissent entre eux, qu'ils interagissent avec l'extérieur, que les médias interfèrent et que tout se complique, si vous voulez, en quelque sorte. Pensez à cet exemple-là, tous les cas où on prend un groupe de gens et puis on leur fait faire retraite quelque part pour mieux organiser leur action. J'ai pris ça comme exemple, c'est plus que contre-exemple, mais ça me semble. C'est-à-dire qu'on essaye de simplifier la situation, on en enlève un certain nombre de dimensions de manière à simplifier l'organisation de pouvoir. Alors, je reviens à mes trois médiations, consensus, intérêt et contrainte. Alors, le consensus caractérise surtout la relation d'autorité. Je vous laisserai le PowerPoint, et puis de toute manière, vous pouvez le trouver sur le site internet. L'idée de que les gens spontanément s'organiseraient entre eux et s'entendraient sans autorité me semble très très suspecte. Ça arrive. Il arrive que quelquefois, quand les gens sont dans une situation de panique, ils s'auto-organisent. On en a eu un assez bon exemple récemment, mais ça reposait en profondeur sur des relations de pouvoir qui préexistaient à la situation, avec des mineurs chiliens bloqués à 700 mètres sous terre. Il fallait que ce groupe de 70 personnes s'organise pour survivre 2 mois et qu'ils ne s'entretuent pas, qu'ils ne soient pas pris de crise d'angoisse, etc. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait une sorte d'auto-organisation du groupe. Mais souvent, cette auto-organisation du groupe, elle se fait sur des structures préalables de pouvoir. Il y avait déjà des chefs, il y avait déjà des meneurs, il y avait déjà des gens qui avaient plus d'autorité sur les autres que d'autres. Mais pensez qu'il y a quelques cas où ça s'organise bien. Souvent, dans les situations de panique, ça s'organise très mal. En fait, pour qu'il y ait une organisation en quelque sorte auto-gestionnaire, il vaut mieux qu'il y ait une relation d'autorité qui s'établisse. Donc le consensus correspond plutôt à la relation d'autorité. L'intérêt, en tout cas il est omniprésent dans notre société, l'intérêt c'est une relation d'incitation. L'incitation, on vous incite, en vous promettant une gratification, on vous incite à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et puis la contrainte, c'est une relation de contrainte. Alors ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que chacune de ces relations, la relation d'autorité, la relation d'incitation, la relation de contrainte, d'une part, chacune de ces relations est présente dans toute situation humaine. Faites l'exercice vous-même, si vous voulez, c'est une sorte de travaux pratiques, à ce que je vous dis, c'est réfléchissez. Quand vous obéissez ici, dans la structure du lycée, dans la situation d'éducation, réfléchissez à quelles sont les relations qui sont présentes. Je suis persuadé que vous obéissez ici, en partie parce que vous obéissez dans la relation d'autorité, en partie parce que vous y avez intérêt, et en partie parce que vous êtes contraint. Tout simplement parce qu'il y a une éducation obligatoire, que vous ne pouvez pas drogasser dans la rue comme ça, vos parents sont obligés de vous envoyer à l'école, etc. Vous avez certainement dans votre situation les trois dimensions. Simplement, pas au même degré. Et je dirais que ça dépend aussi de chacun d'entre vous. Il se peut qu'il y en ait qui soient là uniquement sur la base, surtout sur la base de la relation d'autorité, parce qu'ils sont d'accord profondément avec l'organisation de leur scolarité. Il se peut qu'il y en ait qui viennent surtout à cause de la pression d'intérêt, du genre je vais au lycée pour voir les copains. Ça, c'est un intérêt, c'est une relation d'intérêt, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec apprendre quelque chose. Et puis, ça peut être aussi, je viens au lycée, surtout parce que je peux pas faire autrement la relation de contrainte. Donc, vous avez chaque fois ces trois dimensions qui sont présentes, mais avec des degrés différents. Et donc, une bonne analyse que vous pourriez faire, si vous preniez un quart d'heure après mon intervention, c'est de dire, moi, dans mon cas, qu'est-ce qui prime dans la situation? Est-ce que c'est la relation d'autorité? Est-ce que c'est la relation d'incitation? Est-ce que c'est la relation de contrainte? Et puis ensuite, de vous demander de pondérer chacune de ces relations en disant, il y a combien de pourcents dans mon obéissance au pouvoir et qui tient à l'autorité, il y a combien de pourcents qui tient à l'incitation et combien de pourcents qui tient à la contrainte. Et c'est pour ça que j'ai dit à la fin de la diapositive qu'il y a, dans toute situation, il y a trois vecteurs. Un vecteur d'autorité, un vecteur d'incitation et un vecteur de contrainte. Alors, c'est intéressant, encore, toujours, en analysant en creux par rapport à ce qui ne marche pas, c'est intéressant de voir quand est-ce que le pouvoir ne marche pas. Quand est-ce que le pouvoir ne marche pas. Il y a plusieurs cas de je vais laisser rentrer là. C'est intéressant de dire qu'il y a beaucoup de cas où le pouvoir marche, et la plupart du temps il ne marche pas bien. Nous obéissons, nous nous comportons en citoyens obéissants la plupart du temps. Mais il y a des cas où le pouvoir ne marche pas, des cas où le pouvoir est impuissant. Vous dites à quelqu'un, vous êtes investi d'autorité, puis vous dites à quelqu'un, eh bien, faites telle chose, et il vous dit non. Et à ce moment-là, vous avez une dévaluation de l'autorité. Moi, je me souviens d'un événement, c'est un de mes premiers souvenirs fondateurs, c'est quand j'étais en toute petite classe, hein, juste après la maternelle, on m'a mis dehors de la classe, qui sortait dans un collège de Lyon, et je suis sorti, parce que j'avais pu faire une sottise, j'étais furieux, j'étais absolument fou de rage, c'était il y a fort longtemps, hein, imaginez-vous, et ce que j'ai fait, ça se faisait vraiment pas à l'époque, c'est quand on m'a dit de rentrer, j'ai dit non, je rentre pas. Je devais avoir 5 ans, hein, 6 ans, et ça a foutu une panique absolue dans l'institution, parce qu'on n'avait jamais vu un gamin de 5 ou 6 ans qui disait non. Et comme ils n'avaient pas utilisé la violence pour me faire rentrer, ils ont dû aller chercher mes parents, enfin, je me suis pris quelque chose, ça c'est sûr, pour me faire rentrer en classe. Mais ce jour-là, j'ai perçu, comme petit gamin, là, j'ai perçu ce que c'était que la faillite de l'autorité. Et le jour où vous dites à quelqu'un, ben non. Alors, quelquefois, vous le payez cher. Hein. Les professeurs, la maîtresse d'école, elle avait de l'autorité pour moi. C'était bien par définition la personne qui avait une autorité. Et je lui dis non. Et je m'aperçois qu'à ce moment-là, l'autorité est nulle. Donc, quelquefois, il suffit de dire non et puis les gens sont un peu une panique. Alors, bon, il y a des pays où il vaut mieux pas dire non. Hein. Il y a des situations où il vaut mieux pas dire non. Mais, effectivement, il y a des moments où l'autorité se retrouve toute nue, tout simplement parce que vous avez refusé d'obéir. Il y a d'autres cas où le pouvoir ne fonctionne pas parce que, en fait, on vous achète. Donc là, vous dites, c'est bien sûr ça marche, il y a le pouvoir, mais c'est de la vénalité pure et simple. Il y a des cas où l'autorité est fondée sur la contrainte, le pouvoir fondé sur la contrainte va échouer, tout simplement parce que les gens vont menacer d'employer la force, mais ils sont pas capables de tenir leurs engagements, de tenir leurs menaces. C'est comme lorsque, imaginez quand vous avez une foule énorme de manifestants et puis que vous avez une compagnie de CRS. Alors, elle vous menace, jusqu'au moment où vous les balayez. Hein, je veux dire, c'est un des cas d'échec du pouvoir. Lorsqu'il peut menacer d'utiliser la force physique, mais qu'il n'en a pas les moyens. Les grands moments de désobéissance civique dans l'histoire, c'est toujours des moments où, brusquement, la menace physique du pouvoir ne peut plus s'exercer, justement, parce que les gens n'ont pas les moyens d'exercer ces moyens d'exercer ces moyens de physique. Et puis, il y a un cas qui est tout à fait intéressant aussi, c'est le cas où le pouvoir s'effondre tout simplement, c'est-à-dire là où plus personne n'obéit. C'est des cas d'anarchie, de chaos, d'autogestion irratique. Il y a quelques cas dans l'histoire comme ça, et c'est des cas absolument dramatiques. Des cas absolument dramatiques parce que la plupart du temps, ça déchaîne une violence absolue. C'est-à-dire, les gens font strictement n'importe quoi, et c'est l'effondrement du pouvoir. Bon, si vous avez des questions, je pourrais vous en parler parce qu'il y a quelques illustrations historiques qui sont extrêmement intéressantes, mais je veux continuer là-dessus. Alors maintenant, j'en viens à l'autorité. Donc là, je vous ai parlé du pouvoir. Maintenant, j'en viens à l'autorité. Alors, une première chose que je veux souligner, parce qu'en général, on ne le fait pas du tout. On pense que l'autorité, c'est une relation entre quelqu'un qui a du pouvoir et lui qui vous donne des ordres et qui, grâce à son autorité, arrive à vous faire obéir. Non. La première chose à dire, c'est que derrière la relation d'autorité, il y a toujours un groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité sans l'adhésion d'un groupe à une organisation d'autorité. Et même dans le cadre de la soumission à un pouvoir violent. Hein, ça veut dire qu'il y a quand même un accord parmi les gens pour se soumettre à ce pouvoir violent. C'est ce que les philosophes ont appelé la servitude volontaire. Mais il y a toujours le groupe à l'arrière-plan d'une relation d'autorité. Le professeur qui donne un ordre à un élève, il a derrière lui, et l'élève a derrière lui, toute la communauté d'enseignement. Le professeur, il a derrière lui la communauté d'enseignement, que ce soit celle de ses collègues directement impliqués, que ce soit la communauté enseignante au sens large, plus la communauté de la direction de l'établissement. Et l'élève, il a derrière lui le groupe, que ce soit le groupe de la classe, ou le groupe des gens du même âge, ou même le groupe du lycée. Pensez au cas où une sanction injuste est donnée, et où brusquement, tout le monde se révolte. Et pas seulement tout le monde trouve ça injuste. Donc il y a toujours, derrière la relation d'autorité, il y a toujours à l'arrière-plan un phénomène de groupe. Et du coup, la complexité des groupes aujourd'hui, vous pouvez bien l'imaginer, va jouer un rôle extrêmement important et va considérablement compliquer la relation d'autorité. Bon, deuxièmement, l'autorité, je reviens à ce que j'ai dit, elle suppose qu'il y a un accord. Il y a un accord. Même si cet accord est sur des mauvaises raisons. Même si c'est un accord pour avoir peur, par exemple, de la répression, peur de la violence, peur de la torture, etc. Donc, en fait, on n'établit pas l'autorité et on ne la rétablit pas par la violence. Il faut d'abord établir un consensus ou une entente. Il faut essayer d'établir du consensus et essayer d'établir de l'entente. Et puis, troisième caractéristique, il y a une dimension éthique de l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, ça consiste pas à séduire les gens, en disant, on fait ça pour mes beaux yeux, hein, ou pour, parce que je te séduis, et parce que je te charme. L'autorité, c'est pas le dialogue. On discute pas. On peut discuter avant, on peut discuter après. Mais on discute pas au moment de la relation d'autorité. C'est dans la relation d'autorité, on donne l'ordre, et il doit être obéi. Et d'autre part, l'autorité, c'est pas l'achat, par des biens, par des faveurs, par des récompenses, par des concessions. Tout simplement pour une raison simple, c'est que le jour où vous avez plus de quoi acheter, vous n'avez plus d'autorité non plus. Il faut que la relation soit un peu plus solide. Et, dimension du groupe, il y a toujours un groupe derrière celui qui a l'autorité, et il y a toujours un groupe derrière ceux qui obéissent à l'autorité. Mais deuxième dimension, il y a toujours une dimension hiérarchique. Hiérarchique, c'est-à-dire que dans l'autorité, il y a un chef, encore une fois pour des raisons qui peuvent être très différentes, il y a un chef, et puis il y a un groupe qui obéit parce qu'il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait des règles. J'insiste beaucoup sur une chose, parce que souvent il m'arrive de faire des conférences sur la notion de discipline, mais il ne faut pas du tout voir la notion d'ordre, la notion de discipline d'un point de vue répressif d'abord. Peut bien sûr avoir un caractère répressif. Mais l'ordre et la discipline sont d'abord nécessaires pour organiser les comportements. Ça, c'est des travaux que certains historiens ont menés récemment en montrant l'importance dans les sociétés humaines de toutes les pratiques de mise en ordre des comportements. Un peu comme lorsque je vous parlais, si vous voulez, du aller à Euralide. Aller à Euralide. Ça serait bien d'y faire une visite, par exemple, avec un psychosociologue, et vous verriez comment beaucoup d'éléments du décor, beaucoup d'éléments de la signalétique, beaucoup d'éléments de la mise en lumière, beaucoup d'éléments d'organisation sonore sont destinés à organiser les comportements, de manière à ce que les gens ne se précipitent pas tous au même endroit, au même moment, de manière à ce qu'il y ait une fluidité des parcours qui soit favorable à l'acte d'achat, soyons clairs, de manière, il y a une organisation des comportements. Je revenais encore une fois à l'exemple de la gare. Dans une gare, vous avez toute une signalétique qui organise les comportements. Il faut bien voir que les sociétés humaines ont mis en place, toutes les sociétés, depuis les plus simples jusqu'aux sociétés compliquées aujourd'hui, ont toutes mis en place des systèmes qui organisent les comportements, qui les régulent, qui les fluidifient, qui en même temps les rendent cohérents, qui empêchent les y a une fameuse analyse de sociologie, mais aussi de théorie économique, qui dit que par exemple, quand il y a un accident sur une voie d'autoroute, il y en a quasiment inévitablement un même accident sur la voie d'en face. Tout simplement parce que les gens ralentissent pour regarder l'accident, et du coup, les conditions d'un accident sont créées. C'est pour ça que maintenant, très souvent, je ne sais pas si vous regardez aux actualités, dans le cas des accidents, dans le cas des attentats, dans le cas des meurtres, etc., très rapidement, on élève des barrières mobiles qui empêchent de voir. Tout simplement, c'est pour organiser, et ce n'est pas du tout pour empêcher les gens de défaillir, hein. C'est pour organiser leur comportement, pour qu'ils ne s'arrêtent pas, ne s'agglutinent pas, et que les comportements continuent à être fluidifiés. Donc il y a toujours une dimension organe d'ordre, de discipline pour l'organisation des comportements humains. Là encore, réfléchissez à la manière dont vous-même vous êtes discipliné, entre guillemets, par des organisations du comportement, dont quelquefois vous prenez à peine conscience, hein, mais vous êtes discipliné par... vous avez la sonnerie ici, par exemple. La sonnerie dans les lycées, c'est une manière d'organiser les comportements. Et du coup, vous avez donc deux dimensions, la dimension du groupe, la robustesse du groupe, je dirais, et la dimension hiérarchique de la discipline. Alors, maintenant, on peut aller plus vite, puisqu'on a l'autorité s'exerce sur la base d'accords au sein d'un groupe, elle a une dimension hiérarchique. Alors, bien évidemment, on va trouver des tas de variétés de l'autorité. Je les énumère là, hein, rapidement en passant, parce que on va pas me passer l'année. Hein. Vous avez l'autorité politique. Bon, dans nos sociétés, l'autorité politique, c'est celui qui a le pouvoir légitime. Chez nous, c'est le pouvoir de direction. Hein. Mais vous pouvez avoir le pouvoir légitime par transmission héréditaire. Vous pouvez avoir le pouvoir légitime tout simplement parce que c'est le plus brutal qui, en général, a le pouvoir. Il y a des tas de pays encore très rudimentaires ou idiotiques dans lesquels le pouvoir s'exerce à base de brutalité, pour un avis. Mais c'est une forme de légitimité, hein, quand c'est le plus brutal qui commande, au moins on sait qui c'est. Il y a l'autorité religieuse. Alors là, l'autorité religieuse, c'est celui qui a l'autorité religieuse, c'est celui qui est dépositaire de la relation au sacré. Celui qui est dépositaire, le pape, qui est dépositaire de la relation de l'Église à Dieu, le Dalai Lama, est dépositaire de la relation au sacré. L'autorité parentale, alors la base, quelle est la base de l'autorité parentale? Bah, c'est d'avoir engendré une progéniture, hein, et d'avoir la charge de la protéger. Voilà. Bon, donc ça fixe assez bien d'ailleurs la limite, hein, de lorsqu'il n'y a plus besoin de protéger la progéniture, elle peut s'émanciper d'une certaine manière. Avoir engendré la progéniture et la protéger. L'autorité de l'expert, c'est quelque chose de très important dans nos sociétés. C'est l'expert, c'est celui qui a la compétence. Et la compétence, c'est la compétence pour résoudre des problèmes. Vous allez voir un avocat quand vous avez un problème juridique, vous allez voir un médecin quand vous avez un problème de santé, vous allez voir l'architecte quand vous avez un problème de maison, etc. etc. Vous allez pouvoir demander au plombier, hein, quand votre évier est bouché ou que quelque chose ne fonctionne pas. Ça, c'est l'autorité de l'expert, la compétence. Ensuite, vous avez l'autorité du notable. On l'oublie un peu, elle a été très importante dans le passé. Le notable, c'est celui qui est là depuis longtemps. Hein, le maire qui est là depuis 20 ans. Hein, Georges Frêche est mort récemment à Montpellier. Il avait l'autorité d'une grande gueule, d'abord. Il avait l'autorité de quelqu'un qui avait produit des changements importants dans sa vie, puis il a l'autorité de celui qui est là depuis 12 ans. Donc, pratiquement, il était là depuis les années 70, et depuis les années 70, bah, déjà, il était habitué à ce qui est Georges Frêche. Je veux dire, c'était pas possible. Tant qu'il n'était pas mort, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parce qu'il était là depuis longtemps, c'était le notable. Vous avez l'autorité des anciens. Bon, ça n'existe plus tellement dans nos sociétés, mais ça a été très important dans les sociétés modernes, le XVIIIe siècle. Les anciens, les grands auteurs, les grands jurisconsultes, les grands philologues, les grands savants, l'autorité des anciens, parce qu'eux, ils ont fondé quelque chose, ils ont été à l'origine de quelque chose d'important. C'est un peu l'autorité qui demeure dans certaines sociétés traditionnelles, il y en a encore, des sociétés traditionnelles, où on respecte les anciens parce qu'ils ont été avant nous. Et c'était eux qui ont fait tourner les affaires avant nous. Et donc c'est un peu des parents, un peu des gens compétents, parce qu'ils ont la compétence de la durée, ils ont fait depuis longtemps, et puis ils sont à l'origine de... Vous avez l'autorité du professeur, alors là vous remarquerez une chose, je fais que c'est volontairement que je n'ai pas mis dans la compétence. Bien sûr que le professeur doit être compétent, il doit être expert, on le lui demande, mais ce n'est pas la seule condition de son autorité. L'autorité du professeur, c'est qu'il veut et qu'il peut éduquer. C'est sur la base. Hier soir, pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu hier à 9h30 un coup de téléphone d'une jeune femme qui me dit, voilà, j'ai été avec vous à l'université de Paris 1, ça faisait longtemps, hein, je sais que vous avez fait des cours de philosophie aux adolescents, j'ai lu votre livre, je peux organiser quelque chose comme ça dans l'établissement pour enfants handicapés dont je m'occupe. Est-ce que je peux parler avec vous? Est-ce que vous me donnez des conseils, etc. Donc j'ai parlé avec elle, j'ai donné des conseils. Et puis à la fin, elle me dit, ah vous savez, hein, je voulais vous dire une chose, c'est que quand j'étais à Paris 1, vous étiez le seul prof à nous encourager. Vous étiez le seul prof à nous encourager. On était 70 profs de philo dans le département de philosophie de Paris. C'était le seul prof à nous encourager. Et ça a été vraiment important pour moi. Alors, et je me souviens, et je lui dis oui, je me souviens, et je lui dis, vous êtes débrouillard, vous vous démerderez très bien. Il avait dit à la fille comme ça. Mais c'était pas ma compétence de philosophe qui était en jeu là. Hein, vous voyez bien. C'était la volonté et le pouvoir d'éduquer. Quand je réfléchis aux professeurs pour qui m'ont marqué, c'est pas leur compétence particulière sur le moment qui m'a impressionné, c'était plutôt le type d'engagement qu'ils avaient dans leur métier, le type de rapport honnête qu'ils pouvaient avoir avec nous, la volonté de nous éduquer, et puis à partir de là, ben, je leur faisais confiance pour la compétence. Je leur faisais confiance parce que je n'étais pas capable de savoir s'ils étaient compétents ou pas vraiment. Bon, j'aurais pu voir un type qui était vraiment nul. Mais est-ce qu'il était vraiment plus compétent que les autres, celui que je trouvais mieux? Je ne peux pas le dire. Non, j'avais la confiance inspirée par le fait qu'il voulait éduquer et que finalement, il semblait qu'il y arrivait. Après, je lui faisais confiance pour la compétence et en général, d'ailleurs, ça suivait bien. Et, j'ai rarement fait confiance à des gens qui n'étaient pas compétents. Mais d'abord, ce qui comptait, c'était la volonté d'éduquer, de pouvoir éduquer. Et puis, j'ai mis en bas une autre sorte d'autorité, parce qu'aujourd'hui elle est curieuse, elle m'étonne beaucoup, c'est l'autorité des people et l'autorité des marques. Ça, je sais que vous y êtes très sensible. Alors, là, ça repose sur le fait d'être connu. C'est très important d'être connu. Et pourquoi c'est important d'être connu? Parce qu'au moins on sait que c'est connu. Hein? Et on est connu pourquoi? Parce qu'on est déjà connu. Hein? C'est une sorte de cercle vraiment abominablement vicieux. Mais si vous êtes connu, ça va. Je suis passé à France Culture, là, mardi soir, mercredi soir, et quand il m'a présenté, le présentateur de l'émission de Graveau, il dit, vous êtes bien connu sur France Culture. C'était un gage que j'allais être bon. C'est pas parce que j'étais déjà passé que j'étais bon. Mais il m'a présenté, avant de me présenter comme philosophe, spécialiste de l'art contemporain, etc., il m'a dit, vous êtes bien connu tous les auditeurs France Culture. Visiblement, ça le soulageait énormément parce qu'il pensait que c'était un gage de compétence. Oui, alors, les sources de l'autorité, maintenant, c'est comment se fait-il, comme je vous ai dit, c'est une question, on est d'accord. Mais alors, on est d'accord sur quoi? Je parle maintenant du temps actuel, du temps contemporain et de l'autorité en général. On est d'accord sur... On peut être d'accord tout simplement et penser que ça existe. C'est plus important que vous pensez. On peut être d'accord sur la tradition et les coutumes. On est d'accord sur c'est la manière dont les choses se passent. On est d'accord sur c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, il y a deux choses. France dans le système scolaire me font beaucoup de sourire, parce que j'en suis j'en suis un produit, mais en même temps je suis ironique là-dessus, c'est la notation. Il n'y a rien de plus idiot que la notation, excusez-moi de le dire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de récent, la notation, mais si on la supprimait, vous seriez les premiers à en être totalement malades. Parce que vous ne sauriez pas ce que vous valez. Et pensez à une chose, je vais casser la baraque à mes collègues professeurs ici, mais pensez à l'absurdité de la notion de moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire de moyenne? Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une série avec les progressions, et puis des choses qui vont et qui vont pas. Mais une moyenne, quand vous tassez tout ça, moi, quand j'enseignais à la fac, parce que maintenant j'ai pris ma retraite, quand j'enseignais à la fac, les élèves me disaient, ils lisaient pas mes annotations. À la fin, je ne mettais même plus d'annotations, je ne les lisais pas. J'ai eu la moyenne ou pas? Ça ne voulait rien dire qu'ils aient 10. Ils avaient 10, ils auraient pu. Si je mettais la moyenne à 10, ils avaient 10. Si je mettais la moyenne à 7, ils avaient 7. Ça ne voulait rien dire du tout. Mais pensez à notre système scolaire, et pire que notre système scolaire, notre système politique, notre système social, repose en France sur la notation. Bon, il y a la notation des hôpitaux, la notation des lycées, la notation des grandes écoles commerciales. Vous avez la notation, on note. L'autorité de la notation. Regardez la maladie des classements de Shanghai, par exemple. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose, le classement de Shanghai pour les universités. C'est une des traditions françaises de croire dans la notation et de croire dans la tradition. De la même manière que la France est particulièrement fétichiste, et vous comme les autres, de la notion de programme. On a fait le programme, on n'a pas fait le programme, on a fini le programme, on n'a pas fini le programme, on ne va pas finir le programme. Ça fait partie de nos croyances profondes. Qui a soit l'autorité. Et ça, ce n'est pas une autorité rationnelle, ce n'est pas une autorité de compétence, c'est une autorité qui est bâtie sur la coutume. Voilà un bon exemple de choses sur la coutume. Vous avez l'autorité légale. C'est vrai que le proviseur, il est responsable de vous. Et ici, il a l'autorité légale. Pour la ligne, s'il est investi de l'autorité sur vous pendant que vous êtes là, avec pour contrepartie le fait qu'il est responsable si les choses tournent mal. Bon, ça, c'est l'autorité légale. Et l'autorité charismatique. Alors ça, vous avez dû sûrement en entendre parler, l'autorité charismatique, parce que j'ai dit tout à l'heure, l'autorité, c'est pas le charme. Or, néanmoins, on dit, il y a des gens qui ont un charme tel, ils ont un charisme. Charme, et charisme, en grec, c'est charme. Ils ont un charisme tel qu'ils ont de l'autorité. Ils ont naturellement de l'autorité. Ils ont un charisme. Bon. Monsieur de Villepin pense qu'il a un charisme, par exemple. C'est vrai que il est grand, il est beau, il parle beaucoup, etc. Bon, alors, je vais vous dire une chose, c'est le charisme, c'est pas du tout du charme. C'est pas du tout du charme. J'ai mis longtemps à comprendre, et c'est une chose récente, la notion d'autorité charismatique a été thématisée et appelée, baptisée ainsi par un sociologue allemand qui s'appelait Max Weber, dans les années 1910. Et alors, on dit toujours, avoir l'autorité charismatique, c'est avoir du charme, c'est être beau, c'est avoir du rayonnement, c'est dans ça. J'ai relu récemment, pour la troisième ou quatrième fois, ces textes de Max Weber, et je me suis aperçu d'un truc assez génial. C'est qu'il dit que l'autorité charismatique, c'est le fait qu'une personne croit en elle, et soit capable de persuader les autres qu'il faut qu'elle la croie. On dit tout le monde peut avoir du charisme. Il faut que vous croyez en vous et que vous soyez capable de persuader les gens vers lesquels vous voulez avoir du charisme de croire en vous. Alors du coup, tous les hommes politiques commencent par avoir du charisme. Ils croient en eux. Et puis quelquefois, ils ont vraiment du charisme quand ils arrivent à persuader les gens de les croire. Et puis quelquefois, en cours de route, les gens ne les croient plus. Ah, ils n'ont plus de charisme. Et pensez à ça, le charisme, ça consiste à avoir une grande confiance en soi. Vous voyez, c'est moi qui suis capable de résoudre les problèmes de tout le monde, et le tout, c'est dans une recherche de la télévision, vous êtes capable de résoudre leurs problèmes. Quand j'étais à Vienne récemment, en Autriche, il y avait la campagne pour les élections municipales, avec une progression très forte de l'extrême droite, mais l'extrême droite n'avait pas du tout de programme du tout. Il y avait un jeune type dont le programme de campagne, c'était du charisme à l'état pur, c'était « Votez pour moi parce que j'ai confiance en vous ». C'est-à-dire, je crois en moi, et j'ai confiance que vous croyez en moi. Ça s'appelle du charisme. Voilà. Et puis, vous avez derrière moi l'autorité de la compétence, et dans nos sociétés, elle est tout à fait importante. Alors, j'ai mis sur la colonne de droite, et je me dépêche parce que je vais arriver à la fin, j'ai mis sur la colonne de droite les formes d'incroyance. Il y a des cas où on ne croit pas dans les traditions. On ne croit pas dans les traditions. Moi, par exemple, je ne crois pas à la notation. Il appelle du reste que je ne crois plus à la notation. Dieu sait si j'ai été bien noté dans ma vie d'étudiant, mais je ne crois pas à la notation. Je veux dire. Donc, malheureusement, je suis un peu tout seul, hein, mais c'est dire, je fais preuve de scepticisme par rapport aux coutumes françaises et aux habitudes françaises. L'autorité légale, vous pouvez ne pas croire à l'autorité légale. Vous pouvez dire, bah oui, moi je veux bien que le proviseur ait une autorité légale, mais je ne crois pas à la loi française sur l'organisation des lycées. Je ne crois pas. Bon, vous pouvez, l'autorité charismatique, ce qui est fait l'incroyance, c'est que si ça se méfie, alors tu veux qu'on croit, mais mon œil, tu veux qu'on croit, mais mon œil. Et puis l'autorité de la compétence, elle a aussi des échecs. C'est lorsque on ne considère pas qu'il y a besoin de compétences, ou lorsqu'on n'est même pas capable de se rendre compte qu'il faudrait qu'il y ait de la compétence. Et c'est beaucoup plus répandu qu'on pense aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a un certain nombre de métiers, mais ils n'ont pas besoin maintenant d'avoir de compétences. Par exemple, pour être un homme politique, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas besoin d'être compétent. En quoi que ce soit, que c'est une sorte d'art, que c'est de la com, que c'est de l'image, que c'est du charisme, etc. Bon. C'est peut-être une erreur. Hein. Et puis, il y a des gens qui, dans certains cas, ne se rendent pas compte qu'ils voudraient avoir de la compétence. Et qu'ils n'ont pas la compétence pour évaluer la compétence. Ils croient que ça marche tout seul, quoi, si vous voulez. Avec la disparition de l'artisanat, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que après, toutes les problèmes techniques peuvent se résoudre en allant acheter quelque chose chez Bricorama. Hein, quand on a de compétence. Ça, c'est l'aveuglement à la compétence. C'est un des problèmes très importants aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on a de plus en plus besoin de compétences, et qu'en même temps, très souvent, les gens ne sont pas capables de les reconnaître. Alors, je vous dirais une chose, c'est que ce n'est pas nouveau, rassurez-vous, c'est qu'au XVIIe siècle, j'ai découvert un texte merveilleux du philosophe anglais Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan, c'était une brute, hein. C'était fort de la nature, c'était une brute. D'ailleurs, il a vécu quasiment centenaire à l'époque où la moyenne de la mortalité était en gros à 50 ans, ce qui lui a posé des problèmes, parce qu'à la fin, les gens disaient qu'il y avait un dinosaure parmi nous. Hein. Il avait quasiment 100 ans, alors que tout le monde était mort 40 ans avant. Tous ses collègues étaient morts 40 ans avant. Donc il avait un peu parlé en vie. Et à un moment, dans sa livre, il passe en revue les pouvoirs de l'homme. Qu'est-ce qui fait nos pouvoirs? Il y a la force physique, il y a l'endurance, il y a la santé, etc. Puis il y a la vie. Et la science, est-ce que c'est un pouvoir? Bon, il dit que ce n'est pas un grand pouvoir. Pourtant, il était partisan de la science. C'est au XVIIe siècle, hein, 1640, il écrit ça. Ce n'est pas un grand pouvoir. Sauf les fortifications et la science qui est appliquée au domaine militaire. Mais sinon, il n'y a pas assez de science savante pour que la science soit un pouvoir. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont capables de se rendre compte que la science est un pouvoir. Alors, ça a changé aujourd'hui. Mais en plein XVIIe siècle, il dit qu'en fait, la science, ça ne donne pas de pouvoir à un homme parce que personne ne se rend compte qu'il est savant. Parce que tout le monde est ignorant. Alors, je termine. Non, ça que je saute, les bases théoriques de l'autorité. Alors, rapidement maintenant, je conclue là-dessus, sur l'autorité et l'éducation. Bien, pensez à une chose. Ça va aller très vite maintenant, tout simplement parce que vos groupes, la relation d'autorité dans l'éducation, elle va continuellement buter sur la composition des groupes, sur la composition de la communauté. Quand vous avez des groupes, ce n'est pas le cas ici, mais quand vous avez des classes qui sont profondément divisées par leur composition d'origine ethnique, par exemple, ou d'origine religieuse, c'est très difficile d'établir une relation d'autorité alors que le groupe lui-même n'est pas cohérent. Deuxièmement, la communauté. Aujourd'hui, la communauté, quelles sont ses dimensions exactement? Il y a la classe ensuite, il y a les classes de même niveau. Est-ce que la communauté de l'établissement est vraiment une communauté? Est-ce qu'elle s'étend pas à l'extérieur? Quelle est la place de l'extérieur dans cette communauté? Quelle est la place des parents dans la communauté d'enseignement? Vous voyez que ça, c'est un retour de dimensions qui vont poser des problèmes pour l'autorité. Ensuite, vous avez bien évidemment à faire intervenir tout ce que j'ai dit, la loi. Ben oui, vous avez des règlements qui vont asseoir l'autorité dans l'établissement. Vous avez des traditions, y compris des traditions auxquelles vous ne pensez pas. Comme je vous l'ai dit, le fait que tout le monde ait la religion de la notation, tout le monde ait la religion des devoirs, des programmes. Et puis, vous avez des problèmes de l'organisation de l'action. Hein, vous êtes un groupe, il faut que vous appreniez, vous atteignez un certain niveau d'apprentissage, il faut qu'on organise cette action. Et par exemple, pensez aux problèmes d'autorité que pose le fait qu'on essaye de personnaliser les apprentissages. Quand on essaye de personnaliser les apprentissages, d'une certaine manière, c'est très bien individuellement, mais d'un autre côté, on casse le groupe. Hein? Si vous étiez dans une école à la finlandaise, une école à la finlandaise, c'est une sorte de supermarché, où vous vous mettez, en fonction de vos niveaux, vous suivez les disciplines en fonction de votre niveau. Donc il n'y a plus, à l'état proprement dit, il n'y a plus de classe. C'est une sorte de marché de consommateurs. Alors vous me direz, qu'est-ce qui c'est qui fait que ce n'est pas une pétaudière, un lycée finlandais? Ben, c'est qu'ils sont luthériens. Ça, c'est la religion. Ils sont luthériens, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par des croyances religieuses, des croyances sur la destinée humaine, le fonctionnement social, qui fait qu'ils peuvent se comporter en consommateurs tout en gardant quelque chose qui est un groupe. Mais le groupe vient de l'extérieur, vient de la religion. Bon, alors, les problèmes que ça posera, c'est les divisions du groupe, les complexités de la communauté, les critiques de la loi, la nature de la tradition et l'acceptation de la tradition, la reconnaissance de la compétence et l'organisation de l'action. Alors, je dirais que, ce qui va encore plus compliquer les choses, mais ça n'empêche pas de fonctionner, c'est que vous êtes dans des sociétés où il y a un très fort individualisme et en même temps un très fort conformisme de groupe. D'une certaine manière, vous êtes tous des individus différents et d'un autre, vous êtes très profondément inscrits dans votre groupe. Vous avez des appartenances plurielles, des appartenances culturelles, ethniques, quelquefois des appartenances de langage. Hein. Pensez aussi à des groupes de classe, par exemple, où les gens n'ont pas tous le français comme langue maternelle. Comment ça fonctionne? Un groupe de classe où tout le monde n'a pas le français. Alors, c'est des problèmes qui existent hein, à New York, qui sont très bien traités, parce que, avec le melting pot américain, vous avez des tas de classes dans les collèges où les gens sont des arrivants récents, et donc on met en place des modes de fonctionnement, mais encore une fois, on ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'il y ait une langue maternelle commune. Il y a la demande de reconnaissance aujourd'hui qui est très forte. Il y a votre pouvoir comme consommateur. Vous êtes les consommateurs. Vous avez un pouvoir d'achat, même s'il est sûrement insuffisant et que vous en plaignez régulièrement, mais vous avez un pouvoir d'achat et ça pèse sur la relation d'autorité à l'intérieur des communautés. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a quand même un paradoxe, c'est que dans un établissement, vous devez obéir et dès que vous êtes sorti de l'établissement, on vous dit, la publicité vous dit, les vendeurs de téléphones portables et d'abonnements vous disent, soyez un consommateur autonome, et choisissez ce qui est mieux pour vous, soyez égoïste, prenez ce qui vous va mieux et ce qui vaut pour vous, etc. Ça aussi, ça interfère avec la notion d'autorité. Et puis, pensez aussi une chose, c'est que vous avez un pouvoir que nous n'avions pas, hein, c'est le pouvoir que nous n'avions absolument pas, c'est le pouvoir de vous exprimer. Quand vous exprimez, quand je dis que nous n'avons pas le pouvoir de vous exprimer, un lycéen des années 60, comme moi, par exemple, un lycéen, pour s'exprimer, il avait la lettre, et pas toujours le téléphone fixe. Hein? Pas toujours le téléphone pour s'exprimer. Bon. Maintenant, pensez à ce que vous avez pour combien l'expression avec le téléphone portable, avec l'Internet, avec les chats, avec les SMS. Pensez à tous vos moyens d'expression Et ça aussi, ça pèse dans le fonctionnement de l'autorité des groupes. Alors, je m'arrête là, hein, parce que je préférerais qu'il y ait maintenant des questions. Je vous laisse le PowerPoint, donc vous pouvez, si vous n'avez pas pu le suivre.